Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
C'est un constat qui fait peur. Il y aurait eu en 2016 815 millions de personnes souffrant de sous-alimentation chronique dans le monde, soit environ une personne sur neuf. Un autre constat, 15 millions de personnes seraient en insécurité alimentaire grave dans les pays dits développés, dont plus de 3 millions de personnes aux États-Unis, 2,7 millions au Royaume-Uni, 0,8 en Allemagne, 0,9 en France. Mais parallèlement à tous ces chiffres, l'obésité et les problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation progressent aussi dans toutes les parties du monde. Nous en parlons avec nos invités au téléphone de la radio africaine ce matin. Avec vous, Stéphane Besançon, merci de nous rejoindre. Vous êtes en direct du Mali, vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète, donc au Mali. Merci de répondre à notre invitation. Nous rejoint aussi Yves Martin Prével. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur de recherche en nutrition internationale à l'Institut de recherche pour le développement et vous êtes aussi co-auteur d'un ouvrage, La nutrition dans un monde globalisé. C'est paru dernièrement aux éditions Cartala. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation pour la dernière de la saison où nous allons parler de la nutrition dans un monde globalisé. Alors dans cet ouvrage, Yves Martin Prével, vous retracez l'évolution de la nutrition dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à son inscription dans les ODD, Objectifs de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel contexte vous avez rédigé cet ouvrage et quels en sont les objectifs ?
Oui, alors merci beaucoup d'abord pour votre invitation et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Stéphane Besançon que je connais et avec qui nous travaillons. Alors pour vous répondre à votre question, l'ouvrage en fait, d'abord c'est un ouvrage collectif, c'est-à-dire que avec mon collègue Bernard Mer, nous l'avons coordonné, mais nous avons sollicité des experts francophones d'un peu toutes les facettes des problèmes de nutrition. Et alors les deux termes sont importants, expert et francophone. Oui. Francophone parce qu'en fait, au départ, ça a été la demande en fait d'amis éditeurs à Cartala, nous disant c'est quand même étonnant, on parle de plus en plus de nutrition. La nutrition, ça a l'air d'être quelque chose de compliqué. Et en fait, on n'a pas d'ouvrage en français qui retrace ça de façon un petit peu à la fois global et simple, alors mais scientifiquement valable. Donc, si vous voulez, c'est pas un ouvrage très technique, c'est un ouvrage pour expliquer parfois à des étudiants, parfois à des gens qui travaillent dans le domaine dans un domaine proche, par exemple des gens qui travaillent dans l'agriculture, connaissent pas forcément très bien les questions de nutrition, des gens qui travaillent dans la santé, n'ont pas toujours non plus une vision très clair des questions de nutrition, mais c'est également les gens qui travaillent dans l'assainissement, les gens qui travaillent dans le commerce, les gens qui travaillent dans l'économie, les gens qui travaillent dans la gouvernance. Oui. Toutes ces questions-là sont abordées dans cet ouvrage pour essayer de faire le lien entre tous les secteurs qui peuvent être concernés et qui devraient se sentir concernés par les questions de nutrition. Si je peux me permettre, aux chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure, on pourrait en ajouter pas mal d'autres. Et notamment, si on veut en retenir un seul, c'est que il y a deux ans, le rapport mondial sur la nutrition estimait qu'une personne sur trois dans le monde souffrait d'au moins un type de malnutrition, et que l'on serait bientôt à une personne sur deux dans le monde si on ne changeait pas nos modes de production et en fait nos systèmes alimentaires et nos systèmes tout court. Donc, si vous voulez, c'est quand même un problème d'ampleur extraordinairement important. Oui. Et cette ampleur est assez mal connue parce qu'il y a beaucoup de ces malnutritions qui sont silencieuses, tout simplement. Et quand on voit quelqu'un qui est en surpoids, on le sent, on ne fait pas le lien tout de suite avec le fait que cette personne augmente son risque de maladie cardiovasculaire, augmente son risque de diabète, etc. Voilà.
Alors, Stéphane, oui?
Vous avez, oui, je vous
en prie. Stéphane Besançon, pourquoi est-ce qu'il est important de penser la nutrition à l'échelle mondiale et de manière globalisée, selon vous ?
D'abord, avant de commencer, merci de m'avoir invité pour cette dernière émission. Et puis, mon bonjour aussi à Yves-Martin Prével, avec qui on collabore et que je connais très bien. Mais parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où les échanges commerciaux sont absolument colossaux. Oui. Donc, il est très, très compliqué de parler de nutrition et d'alimentation si on reste à une échelle extrêmement locale. Mmh. des jeunes pour toutes sortes d'échanges commerciaux autour de la nutrition. Et après, là-dessus, il y a aussi toute la discussion sur les ultra-transformés et tous les produits industriels au sens plus large, puisqu'aujourd'hui, on a quand même 8 ou 9 transnationales qui détiennent à peu près une grosse part du marché, on va dire, et du coup, qui travaillent ce marché qu'à base d'échanges de pays à pays et de commercialisation très large de produits qui peuvent, en un rien de temps, passer d'un pays à 2, à 10, à 50, à 60, à 80, à 100. Donc, à un moment, on est bien obligé de voir cette globalisation, ces changements à échelle globale, pour pouvoir aussi intervenir à deux niveaux. Au niveau qu'est-ce qu'on peut faire à échelle locale, qu'est-ce qu'on peut changer, améliorer, mais aussi sur cette chaîne plus massive, qu'est-ce qu'on peut là aussi changer et améliorer. Sachant qu'on parle là de nutrition, mais quand on parle aussi de ces échanges, on parle de transport, on parle de mode de production, et qu'on parle aussi de ce débat-là rejoint le débat sur l'environnement et l'écologie aujourd'hui aussi. Donc on a un débat qui est un peu l'impact de la nutrition sur la santé, l'impact sur l'environnement, mais aussi comment cet impact environnemental vient réimpacter la santé. Donc on a un peu un débat qui est macro, qui est très très important.
Alors Yves Martin Prével, le nombre de personnes en insécurité alimentaire augmente partout dans le monde. Alors à quoi attribue-t-on l'échec de la lutte contre la faim dans le monde ?
Alors c'est une excellente question. Alors on peut parler d'échec ou de semi-échec, parce qu'il faut quand même... Bon, c'est vrai que le nombre augmente, mais en nombre absolu, puisque la population elle-même augmente.
Oui.
Et la population augmente plus dans les pays les plus pauvres, et c'est dans les pays les plus pauvres qu'on va trouver le plus de personnes en sous-alimentation. Donc, si vous voulez, il y a un effet mécanique sur le nombre de personnes, alors que sur les pourcentages, on est plutôt sur la diminution. Donc, il faut essayer de nuancer. Alors, c'est vrai que c'est toujours inquiétant parce que dans les années 90, et notamment en 96 au sommet mondial sur l'alimentation, il avait été fixé comme objectif de diviser par deux le nombre de personnes qui déjà étaient de l'ordre de 800 millions. Et donc, on voulait arriver à l'année 2015 à quelque chose de l'ordre de 400 millions. Et on est toujours à 800 millions. Donc c'est un échec de ce point de vue-là. En même temps, on était, en termes de pourcentage, on a réduit de l'ordre de 35-37% à un peu moins de 30%. Donc on est quand même des petits progrès. Mais les causes de ça sont un peu liées à ce que disait Stéphane Besançon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes mondialisés où, en fait, on a laissé de côté tout un aspect, on va dire, de circuit alimentaire et agricole. On n'a pas investi, en fait, dans l'agriculture de petite taille, l'agriculture familiale, dans tous les pays du monde, c'est pas réservé aux pays du Sud, mais en particulier dans les régions du Sud. On a laissé un peu tomber la recherche de ce côté-là, et on est parti sur l'agriculture extensive, avec des effets extrêmement pervers d'endroits où on pouvait mécaniser et produire des énormes quantités d'aliments sur des grandes surfaces, et du coup inonder le marché avec des produits peu chers, et donc complètement au détriment des agricultures beaucoup plus familiales et beaucoup plus petites et beaucoup moins mécanisées, qui elles ne peuvent pas lutter contre les prix qui arrivent de produits importés. Donc c'est une des raisons qui explique qu'on a toujours ce même pourcentage pas le même pourcentage, mais un nombre à peu près équivalent de personnes sous-alimentées.
Oui.
Et notamment dans les pays pauvres, et notamment parmi ceux qui produisent de l'aliment. C'est un petit peu ça l'ironie quand même. C'est-à-dire que ce sont les agriculteurs pauvres qui sont les premiers, alors qu'ils produisent de l'aliment, à souffrir de la faim. Donc c'est quand même un paradoxe. Enfin, plus de la moitié des personnes qui souffrent de sous-alimentation sont des gens qui produisent de l'aliment. Et donc c'est bien là, on voit cette perversité d'un système globalisé qui peut avoir des avantages dans certains côtés, mais qui a eu beaucoup d'inconvénients, et Stéphane pourrait beaucoup parler notamment d'autres effets collatéraux qui sont sur les prix des aliments trop gras et trop sucrés, quoi, par exemple.
Alors justement, à Stéphane Besançon, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet ?
Alors oui, alors effectivement sur les prix, alors même déjà avant le trop gras et le trop sucré, par exemple au Mali, on a des aberrations qui sont créées sur les marchés. On a un riz de très bonne qualité produit dans l'office du Niger, du riz malien qui s'appelle le riz Gambiaka, qui arrive à Bamako, sur le marché de Bamako, alors qu'il quitte Ségou à 400 km plus cher que du riz qui arrive, de la brisure de riz qui arrive de Thaïlande, par exemple. Donc, on a déjà sur le marché global, j'allais dire, même des céréales, ces aberrations. Et après, effectivement, le deuxième effet qui découle de ça, c'est l'effet sur les produits ultra transformés par l'industrie, où on a des produits qui arrivent aujourd'hui sur des marchés, des produits de très faible qualité alimentaire, je parle, hein, qui arrivent à des prix vraiment très, très bas, et du coup, qui prennent une place très importante sur le marché, à la place de produits traditionnels de meilleure valeur alimentaire. Alors l'exemple qu'on prend tout le temps, c'est les cubes alimentaires. Aujourd'hui, ils sont venus déplacer sur le marché des épices traditionnelles qui coûtaient très peu cher, mais qui avaient une vraie valeur alimentaire. Et ces cubes sont venus complètement déstructurer ce marché-là, prendre toute la place. Mais eux ont une valeur alimentaire très faible, sont, comme tout le monde le sait, très 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 salés, oui. Et peuvent avoir un impact sur la santé. Donc la recomposition des marchés alimentaires a un lien direct aussi avec l'impact que peut avoir ce changement alimentaire sur la santé.
Alors justement, c'est vrai qu'on a toujours l'image de l'Afrique où les populations ont généralement faim, mais on a vu ces dernières années que les choses ont évolué. On en a d'ailleurs parlé il y a quelques mois ensemble, hein, Stéphane Besançon. On voit par exemple cette classe moyenne sur le continent africain qui a changé un petit peu ses habitudes alimentaires. On voit aussi l'arrivée de fast-food, d'alimentation transformée sur le continent africain. Alors qu'est-ce qui a changé ces dernières années concernant la nutrition sur le continent?
Y a, pour moi, il y a deux choses qui ont changé fortement. Il y a déjà les prises alimentaires, c'est-à-dire les fréquences de repas, mais tout ce qui en suit, qui ont vraiment complètement changé, oui. Avec l'arrivée d'une alimentation hors domicile qui existait déjà, mais qui s'est amplifiée de manière très forte. Alors ça va être le fast-food qu'on a l'habitude de voir en Occident, mais qui est pas forcément sous forme des enseignes connues, qui va être de toutes les femmes aussi qui préparent dans la rue, oui. De toutes les petites boutiques, etc. Donc là, on va avoir aussi un accès alimentaire qui s'est facilité à tous ces produits-là, des sandwichs, des burgers, du pain avec des œufs, plein de choses comme ça, qui fait que les gens, on le voit nous dans les enquêtes qu'on fait par méthode de rappel 24 heures, mangent beaucoup plus souvent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une alimentation quand même qui a augmenté en proportion de viande, de gras, oui. Et de sucré très, très, très fortement. On a une alimentation qui est de plus en plus grasse, de plus en plus sucrée.
Alors, Yves Martin Prével, comment peut-on expliquer avoir une population sous-alimentée et d'un autre côté avoir des chiffres qui explosent au niveau de l'obésité?
Alors, on l'explique en fait d'abord parce que, comme disait très bien Stéphane Besançon, l'offre alimentaire, elle a complètement transformé le milieu urbain. Donc en fait, on se retrouve avec quand même une dualité. Il y a une augmentation du surpoids et de l'obésité et toutes les maladies chroniques qui l'accompagnent en général, et notamment du diabète et de l'hypertension. Oui. Cette augmentation se voit quand même essentiellement en ville, avec l'accès à une offre alimentaire extrêmement diversifiée et pas très bonne sur le plan nutritionnel. Donc, si vous voulez, cette dualité, elle existe à l'échelle d'un pays, mais c'est pas forcément les mêmes gens qui souffrent des deux types. Ceci dit, il y a tout le problème, on parlait tout au début, de toute la partie des gens qui sont en malnutrition, mais en malnutrition invisible, et donc de tout ce qui concerne notamment les micronutriments. Oui. Et donc le fait d'avoir des carences dans un certain nombre, alors, ce qu'on appelle micronutriments, pour faire très simple, ce sont les vitamines et les minéraux, dont on a besoin qu'en quantité relativement faible, hein, de l'ordre du milligramme ou du microgramme, parfois d'une centaine de milligrammes, pardon. Mais donc, si vous voulez, c'est des quantités faibles. Et en fait, ces nutriments qui manquent dans l'alimentation, certains sont extrêmement importants, enfin, ils sont tous importants, mais il y en a qui sont vraiment cruciaux pour, ne serait-ce que, aider l'organisme à lutter contre l'infection, pour aider l'organisme, oui. À grandir, pour aider tous les phénomènes, on va dire, de métabolisme cellulaire. Sans entrer dans les détails, c'est pas assez. Et donc, toute ces micronutriments manquent parfois, et même souvent, à des gens qui par ailleurs sont obèses.
Oui.
Donc si vous voulez, on a ce côté de la ce qu'on a appelé la double charge, à savoir le fait que les pays qui souffrent encore, dont une partie de la population souffre encore de sous-alimentation chronique et donc de sous-nutrition, c'est-à-dire des enfants maigres, des enfants dont le potentiel de croissance n'est pas atteint,
oui,
en même temps ont dans leur population une charge importante qui va peser de façon importante sur le système de santé, qui concerne les maladies de surcharge. Et en même temps, ça c'est de la double charge au niveau du pays, et on a de la double charge individuelle avec des gens qui souffrent des deux côtés, en fait, d'une carence en micronutriments et d'un surpoids, puis parfois d'un diabète et des problèmes de maladies cardiovasculaires.
Alors c'est une question qui peut-être va vous sembler peut-être un peu fantaisiste, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, d'ici 15 ans, 20 ans, dans les prochaines années, en tout cas, une autre façon de s'alimenter? Je sais pas, par exemple, je regarde un film futuriste où on prendrait, par exemple, un petit cachet dans lequel on verserait une goutte d'eau, et je sais pas. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer cela, et comment on mangera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans?
Alors, on peut l'imaginer, mais je ne voudrais pas le souhaiter. On peut l'imaginer sur un plan technique, si vous voulez, et c'est un grand danger, d'ailleurs, en fait, de beaucoup des solutions qui nous sont présentées parfois pour lutter contre les malnutritions, quel que soit le type de malnutrition. Ça nous est présenté comme des solutions un peu miracles, du type de pilules miracles, ouais, de produits miracles, etc. Alors qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose quand même très importante, c'est que l'alimentation, c'est pas seulement fournir des nutriments à notre corps.
Ouais.
C'est aussi un marqueur social très fort.
Ouais.
C'est-à-dire que ça a une fonction identitaire, ça a une fonction sociale, le partager le repas. Et c'est ça qui est beaucoup déstructuré aussi avec tout ce que Stéphane a décrit tout à l'heure. Hein, vendeur de rue, on mange plus. À la maison en famille, et même quand on mange à la maison, on mange souvent les uns après les autres,
ouais,
derrière les autres, à cause des horaires de travail, à cause des déplacements, à cause d'un tas de choses, hein, à cause du fait que quand on est très très pauvre, c'est moins cher d'acheter des portions de plats, juste la portion nécessaire rue, au coin de la rue,
comme,
que de cuisiner, parce qu'il y a le coût de la cuisine, il y a le temps de la cuisine. Et donc, à partir du moment où les portions de plats sont là, et elles sont à disposition dans la maison, ben les gens n'ont plus l'obligation de manger ensemble. Et donc, on déstructure aussi, à ce moment-là, le lien social, familial, et puis au-delà, un certain nombre de problèmes d'identité, si vous voulez. Et donc, ce qui serait beaucoup plus intéressant que d'inventer des pilules qui résoudraient tout, serait de réinventer des circuits alimentaires, si vous voulez, qui sont à la fois plus vertueux sur le plan de l'environnement et de la durabilité, donc, hein. Et donc on en vient au développement durable, ce que signalait aussi Stéphane tout à l'heure. Donc à la fois des circuits qui sont sur le plan des systèmes alimentaires qui sont plus vertueux pour l'environnement et qui sont aussi plus vertueux pour les sociétés, pour le fait de manger, tout en apportant des nutriments de qualité. Mais c'est vrai que si on se fixe principalement sur la question de couvrir les besoins nutritionnels d'un strict point de vue comptable, si
oui,
je peux dire, on est complètement à côté de la plaque, en fait.
Stéphane Besançon ?
Oui, je pense que Yves a absolument tout dit, et que il est aussi important, je pense, le dernier élément, c'est que les décideurs prennent bien ça en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous la sous-nutrition, on a vraiment une prise en compte de cette malnutrition par carence, mais il y a un gros problème à reconnaître, notamment en Afrique, la présence maintenant et l'émergence de ce double fardeau nutritionnel et cette double charge, qu'elle soit géographique, c'est-à-dire au sein d'un pays, qui est des zones d'obésité, des zones de carence, mais aussi à échelle individuelle. Et je pense que là, il y a vraiment une urgence aussi pour qu'on puisse repenser les choses et travailler mieux et agir plus, que cette question de surpoids, d'obésité, de malnutrition, d'autres formes de malnutrition soient aussi prises en compte par les décideurs et adressées au plus haut niveau.
Alors justement, est-ce qu'il y a de l'espoir sur le continent africain selon vous, selon ce qu'il se passe aujourd'hui, et lorsque l'on fait des projections, ça s'améliore ou c'est plutôt l'inverse, Evan Besançon?
C'est difficile de dire ça s'améliore ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une phase qui est intéressante où il y a une réelle prise de conscience. Oui. Il y a une prise de conscience aussi des individus. On le voit par toutes les émissions, le succès qu'elles peuvent avoir, la demande qu'il y a autour de ces sujets-là. Il y a aussi beaucoup de projets qui se montent, hein, notamment par les chefs. Certains sont en France. Il y en a certains d'ailleurs avec qui vous travaillez pour vos émissions, Chef Ando ou d'autres, qui commencent à avoir des projets vers l'Afrique pour ramener l'alimentation un peu plus traditionnelle et tout ça. Il y a aussi des gens sur le continent qui commencent à travailler ces questions sur les médias sociaux pour conscientiser aussi la population.
Oui.
Donc je pense qu'il y a un mouvement qui est en cours, mais qui est au démarrage, qui se construit. Mm-hmm. Donc c'est maintenant qu'il faut le pousser pour que les décideurs prennent aussi les décisions qu'ils doivent prendre. Parce qu'aujourd'hui, en France, on discute de Nutri-Score, on discute de soda tax, on discute de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, il y a très peu de pays qui sont dotés de moyens législatifs pour encadrer les industriels, encadrer les produits, mettre des labels sur les produits qui sont produits localement ou encadrer aussi tout ce qui va être produit sucré, salé, etc., etc. Donc, je pense qu'on est à une phase où il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a une vraie prise de conscience qu'il y a des enjeux et les gens commencent à les travailler. Maintenant, pour moi, on est au démarrage sur ces questions-là et il reste beaucoup de travail et c'est le moment de mettre un focus très fort sur ces questions-là.
Alors justement, Yves Martin Prével, comment on pourrait conclure cette émission ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ce matin ?
Alors, moi, j'ai coutume de dire que on doit absolument faire en sorte que le citoyen, qui aujourd'hui a quand même des moyens, même dans, en Afrique, tout le monde a un téléphone portable ou pas tout le monde. Il y a beaucoup de téléphones portables, les réseaux sociaux fonctionnent bien.
Oui.
Et les citoyens ont une grande part du pouvoir à condition que l'on sache les écouter. Et donc, je pense que les professionnels ont un travail à faire qui est de repenser les systèmes alimentaires, de revoir les choses, non pas coup par coup, nutriments par nutriments, etc., mais de façon beaucoup plus globale, même si ensuite, techniquement, il va falloir aller dans des choses un petit peu plus précises. Mais vis-à-vis des décideurs, il faut avoir ce discours qu'ils ont une grosse part de choses à faire en changeant des modes de fonctionnement du système, mais ça passe par des régulations, mais ça passe aussi par des incitations. Faut aussi avoir ce côté-là. On sait très bien que dans cette bataille-là, on va dire à l'échelle un peu macro, on se heurte à une industrie agroalimentaire qui est pas toujours vertueuse. Donc il y a besoin aussi d'un dialogue avec cette industrie et quand le dialogue ne suffit pas, d'avoir des positions assez contraignantes avec des gouvernements un peu moins sensibles au lobby qu'ils n'ont l'habitude de l'être. Donc ça, c'est très important aussi à dire. Après, je pense que de toute façon, le choix final et le pouvoir doit être dans les mains des citoyens qui, justement, sont de plus en plus conscientisés. On a vu au Kenya le succès d'émissions qui sont sur la cuisine et de séries télévisées qui mettent en scène, si vous voulez, tout ça avec en même temps des conseils nutritionnels qui sont distillés à travers la série. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en train de se passer. Donc il faut avoir vraiment cette pince, si vous voulez, c'est les deux parts de la tenaille. D'un côté, les professionnels doivent agir avec les gouvernants et de l'autre, les citoyens doivent pousser et réclamer, en fait, finalement, une nourriture saine.
Stéphane Besançon, vous avez une minute pour clôturer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Mais je pense qu'il faut, je vais rebondir là-dessus pour dire qu'il faut que nous aussi, j'allais dire activistes ou chercheurs sur les questions de nutrition, on doit pousser à la fois d'un côté les décideurs pour prendre plus de mesures, aller plus loin et plus vite, et de l'autre côté, et justement, je pense que jouer ce rôle de garde-fou face à l'industrie, parce qu'aujourd'hui, on sait que les conflits d'intérêts sont aussi très très forts, que ce soit avec les compagnies, pour qu'on s'assure que les choix qui soient faits sont les bons choix, et que ce ne soit pas des choix qui soient faits au profit de l'industrie contre la santé. Donc je pense qu'il y a les deux, et comme le disait Yves très justement, je pense aussi qu'il faut se servir de cette chance aujourd'hui avec les téléphones, avec la connexion 3G, qui gagne un terrain incroyable en Afrique, pour utiliser les médias sociaux, YouTube, tous les moyens possibles pour aider la prévention et aider à ce que les gens comprennent mieux les choses, comprennent l'impact des aliments, comprennent toute cette question aussi des systèmes alimentaires.
Merci.
Pour pouvoir faire des meilleurs choix.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, merci Yves Martin Prével, on vous souhaite de très bonnes fêtes. À très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. L'émission sera téléchargeable dans un instant sur nos réseaux.